Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Air du Bois et c'est l'heure de l'interview avec au studio Émilie Moncillon. Bonjour.
Bonjour.
Émilie, tu es ici pour représenter la libre pensée Ardèche Drôme, dont tu es vice-présidente et aussi représentante à la Fédération nationale pour la jeunesse. Nicolas Fèvre-Darcier, bonjour.
Bonjour Yves.
Et toi, tu es pour représenter la Ligue des droits de l'homme.
C'est ça.
Et aussi la CGT.
Parfait.
Cette interview donc, aborde une préoccupation qui monte insidieusement, c'est celle de la militarisation de la jeunesse. Alors justement, j'en discutais avec une de mes collègues, une jeune collègue qui, par exemple, sur YouTube, reçoit des annonces du ministère des Armées et des anciens combattants pour se préparer à un avenir professionnel dans le domaine. Donc, est-ce que c'est une... moi, personnellement, vu mon âge, ce n'est pas le genre d'informations que je reçois, mais est-ce qu'il y a peut-être aussi une campagne d'information ou de recrutement lancé parmi la jeunesse aujourd'hui, ça, c'est à découvrir. Alors, Émilie, avant tout, pourquoi cette volonté à participer à cette émission sur justement cette militarisation à l'adresse de la jeunesse ?
Bien, j'ai sollicité cet entretien dans les locaux de la radio avec éventuellement des partenaires et Nicolas s'est montré volontaire pour l'exercice, parce que c'est une préoccupation au sein de la Fédération nationale de la libre pensée depuis plusieurs années, et notamment l'émergence du dispositif SNU, Service national universel, qui a été abandonné depuis, mais qui a fait quand même des siennes pendant plusieurs années. Et on avait bien compris, quand le service militaire de Chirac, enfin, a été aboli sous Chirac, que c'était pas pour faire moins de militaires, mais mieux de militaires. En fait, le service militaire permettait plus de recruter de façon intéressante. Il était très coûteux. Ils ont décidé de l'abroger. Et puis, ils se sont mis en tête de fabriquer des nouveaux dispositifs pour remplir les réservoirs de l'armée. Mais c'est pas si facile, évidemment. Hein. Des fois, c'est une mémoire qui est pas consciente, mais la mémoire est quand même vive. Et les gens n'ont globalement pas envie d'aller à la guerre et pas envie de faire l'armée. On est préoccupé par ça parce qu'en fait, depuis quelques années, on voit les choses se multiplier en termes de communication. Il y a dans les médias, dans les écoles, dans tous les dispositifs qui sont proposés à la jeunesse et dans les choix des mots. Tu en as fait la preuve pendant qu'on discutait en parlant de réarmement démographique. Quelque chose qui imbibe la société, pas que la jeunesse, mais qui imbibe la société dès la jeunesse, de militaires. On nous parle de résilience, on nous parle de comment qu'il faut se préparer à répondre aux attaques, à se former, à résister aux chocs, que la paix est menacée, on nous fait le couplet de notre civilisation qui serait menacée d'une paix, d'un confort auquel on s'est habitué et qu'un ennemi extérieur mettrait en danger, qu'il va falloir comme ça réveiller l'esprit de défense. Et c'est toutes ces choses-là contre lesquelles la libre pensée veut résister activement, de façon militante. Et voilà, le pacifisme, ce n'est pas la lâcheté. Le pacifisme, c'est un combat.
Nicolas Fèvre-Darcier, cette volonté de participer cette interview.
Il y a un bruit de bottes là qui commence à parvenir à nos oreilles là ces derniers temps, ces dernières années. On nous dit que le risque de guerre se rapproche. On entend parler un grand général d'état-major du risque de devoir sacrifier nos enfants. En même temps, on a un président de la République qui parle de réarmer la France. Enfin, tout ça, c'est quelque chose d'assez récent dans le discours ambiant. Et moi, je voulais dire aussi que pour moi, la nature de la guerre avait changé ces dernières années. Alors, pourquoi est-ce qu'on envisage aujourd'hui un conflit à nos portes ou peut-être même à l'intérieur ? Il y a évidemment une nouvelle crise du capitalisme qui se traduit par une baisse structurelle des profits des grandes entreprises, cumulée à la difficulté d'approvisionnement pour faire fonctionner nos usines, nos entreprises, nos téléphones et nos ordinateurs. Je parle des métaux rares, du pétrole, du gaz, et que tout ça, ça nous amène vers de nouvelles formes de guerre qui sont assises sur une technologie aujourd'hui qui est très différente de celle qu'on a pu connaître il y a une centaine d'années, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des conflits de corps à corps ou de moins en moins. On voit bien la réticence de Trump en Iran d'envoyer des troupes sur le terrain, et tout se fait dans des salons feutrés par des gens très équipés au niveau technologie et qui en dirigent des drones, font tomber des bombes et quelquefois pour atteindre une cible de 5 personnes, on en tue 50 ou 100. Donc le résultat, c'est le même. Ce sont des civils principalement qui meurent dans ces combats par les effets de... Je crois qu'au-delà du fait de parler de militarisation de la jeunesse, il faut aussi revenir sur la problématique de la guerre et de ce qu'elle engendre. Et évidemment, on ne fait pas des frappes chirurgicales quand on envoie une bombe sur un immeuble pour mettre en état de nuire un pseudo-terroriste. La bombe, elle décime des populations et des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça, évidemment.
Il y a aussi cette enquête proposée par la libre pensée Drôme Ardèche sur le complexe militaro-industriel Drôme Ardèche. C'est une carte interactive que l'on peut découvrir sur ce site, dont je mettrai l'adresse sur la page de l'émission. Et donc, quel est justement cet éclairage sur cette mutation de l'industrie française pour préparer une probable guerre ?
Mais Nicolas, il a dit plein de choses en quelques instants et le sujet est tellement vaste que, en effet, on devrait peut-être repartir sur les bases. La paix qui est menacée, de quelle paix parle-t-on ? La paix existe-t-elle vraiment ? Non. Les conflits armés n'ont jamais été si nombreux depuis 1945, donc la paix n'existe pas et les civils dans le monde entier continuent de mourir de la guerre, longtemps après la guerre. J'ai été invitée il n'y a pas longtemps dans la Fédération de la Libre Pensée de la Loire pour parler de ce sujet. Et j'ai cité le napalm qui fait encore naître des enfants en Asie qui ont des malformations aujourd'hui, 60 ans après les faits. Donc la guerre, ça tue pendant la guerre, ça tue très longtemps après la guerre. Ça tue aussi pendant, parce que par exemple, on a des ouvriers qui meurent pour récolter les métaux lourds qui servent à faire les armes qui vont tuer les autres ouvriers dans les autres pays. Enfin, vous voyez, c'est un système global, en fait, qui est dénoncé aujourd'hui. Et là aussi, où Nicolas mettait le doigt sur quelque chose, c'est en effet notre système économique, en fait, qui pousse, ceux qui veulent le sauver surtout, qui pousse à ça. C'est-à-dire que le meilleur ami du militarisme et de la guerre, c'est le capitalisme. Le capitalisme est à bout de souffle. La baisse tendancielle des profits est quand même plus que bien en marche. Et ça, ils sont prêts à tout pour sauver les restes mourants du capitalisme. Ils n'en ont pas grand-chose à faire des conséquences. Là, nous, on parle de nos enfants, de vie, de civils, des enfants d'ici, des enfants du monde entier. On parle de l'écologie parce que la guerre, ça pollue longtemps le sol, la nourriture, l'eau. On parle de vie, on parle de civilisation. Ils parlent de profit à court terme, c'est-à-dire d'engendrer, de capitaliser encore et encore. On est sur des démarches et des philosophies qui sont tellement éloignées qu'on ne parle pas les mêmes langues.
La CGT aussi qui prend part un peu à cette lutte contre la guerre, notamment dernièrement ce blocus d'exportation d'armes vers Israël.
Ouais.
C'est pas un combat de dernière heure. Déjà en Algérie, vous opériez aussi, ou même pour les guerres d'Indochine.
Ouais, ouais. La CGT, tu as raison, a une tradition pacifiste parce qu'elle sait, ce que ça veut dire la guerre, elle sait ce que ça représente pour les ouvriers, les ouvrières et les classes populaires. Récemment, dans le cadre de la guerre d'occupation d'Israël en Palestine, il y a évidemment la France qui envoie des armes ou des composants d'armes à l'armée israélienne. Et donc, il y a eu un blocage organisé à Fos-sur-Mer par les syndicalistes qui ont refusé d'expédier des pièces qui étaient destinées à tuer des gens et à répandre la misère sur ce territoire qu'on n'a vraiment pas besoin aujourd'hui. Alors oui, il y a des actions, je dirais, isolées. Il y a eu des manifestations récemment aussi à Marseille devant des équipementiers qui fabriquent et envoient au Moyen-Orient des armes. Ça reste quand même plutôt marginal à l'échelle du pays. La France reste un gros fabricant exportateur d'armes de toutes sortes, avec des technologies très, très puissantes. Malheureusement, on peut pas être fier de ça aujourd'hui quand on est pacifiste comme nous le sommes autour de cette table.
On revient vers la jeunesse avec ce meeting organisé le 20 juin à Londres. Alors, Émilie, tu pourrais peut-être nous faire part de ce qui s'est passé.
De ce qui va se passer.
Ouais.
Alors, il y a eu un premier meeting à Paris au mois de décembre 2025. La liste des organisations qui sont partenaires de ce meeting est bien trop longue. C'est international. Donc, voilà, des partis politiques, des associations, des syndicats internationaux. Voilà, notamment le plus gros Unison syndicat britannique. Voilà, enfin, c'est une très très grosse organisation. Et là, il y a le meeting du 20 juin à Londres, avec évidemment la participation active notamment de la Libre Pensée. C'est important le côté internationaliste dans la lutte contre le conflit armé généralisé que l'on peut craindre de voir arriver. Et le refus de la guerre qui arrive ou qui arriverait, il n'est pas que de la part de la jeunesse. Il y a l'appel des 500 jeunes intitulé « Nous n'irons pas à la guerre » qui commence à prendre de l'ampleur et que tout mouvement se disant pacifiste doit soutenir. Mais voilà, il n'y a pas que la jeunesse, il y a le monde entier en fait qui dit non à ce programme global. Là, moi, où je voudrais en venir aussi, c'est... comment ils s'y prennent ? C'est facile, on a dit que la guerre était là et elle est partout, malheureusement, dans le monde. On nous en annonce une qui est encore plus généralisée. On voit ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, qui donne pas vraiment envie. Voilà, on se dit que c'est à pas grand-chose de... Je veux dire, une petite allumette qui craque et on a l'impression que tout pourrait craquer autour. Il y a des endroits où ça s'est jamais arrêté. En fait, ce qui se passe et qui est en lien avec la notion de capitalisme que j'ai évoquée avant, c'est que les médias sont possédés en grande majorité, évidemment, je ne parle pas des radios associatives comme celles dans lesquelles on se trouve, par des milliardaires qui ont évidemment tout intérêt à la poursuite du capitalisme et qui participent à ce jeu, en fait, à cette diffusion lente dans un premier temps et qui, là, s'accélère d'informations, de mots-clés qui tendent à faire croire que la guerre est une nécessité, qu'elle est inévitable, voire même qu'elle est souhaitable. On nous vend la guerre comme l'avenir, en fait, une carrière, une formation pour des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on bouche Parcoursup et puis d'un côté, on te dit, et voilà, regardez, une bonne opportunité pour être formé, pour être diplômé, c'est l'armée. Voilà ce qu'on réserve en fait à la jeunesse précaire, à la jeunesse populaire en France. On a des visites d'écoles dans des casernes dès le plus jeune âge, des militaires et des gendarmes qui viennent à l'école. Ça n'arrête pas. Si vous lisez un petit peu le Dauphiné libéré, on a des pages entières de ça tous les jours, de ces petits faits divers-là qui peuvent paraître isolés. Quand on se dit, oh, bah, c'était dans l'école bidule, c'est dans l'école machin. En fait, ça n'arrête pas. Il y a l'émergence des classes défense. Il y a le dispositif Orion. Et là, le pendant de ça, c'est le dispositif Orion Jeunesse, qui est un exercice militaire à grande échelle et que pour la jeunesse, on a adapté. Grosso modo, ça ressemble à un jeu vidéo. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt, on va dire, factuel. Ça ne prépare pas vraiment les gens à la guerre, si vous voulez, ou à une situation d'urgence. Par contre, ça donne une image glamour, presque, en fait, complètement anodine, un peu un jeu de la guerre. Et il faut rappeler ce qu'est la guerre pour de vrai, le re-rappeler. En fait, les jeunes aujourd'hui sont trop jeunes et les vieux qui ont fait la guerre commencent à être presque tous morts. C'est à distance, c'est sur les réseaux, c'est dans les vidéos, c'est dans d'autres pays, on a l'impression que c'est loin. Mais la vraie guerre, il ne faut pas oublier ce que c'est. La mutilation, le viol, le meurtre, les corps déchiquetés, la violence, la barbarie, en fait. Il faut rappeler ça aux gens. On ne le souhaite pas, on doit tous combattre pour que ça n'arrive pas, en fait. Et il y a des moyens, hein. J'imagine qu'on y viendra à un autre moment dans l'interview. Qu'est-ce qu'on peut faire contre... Et cette militarisation galopante avec cette façon d'imbiber la société et la jeunesse, déjà lutter avec des armes intellectuelles, et qu'est-ce qui est possible ensuite, une fois que les gens sont informés ? Parce que je crois que les gens ne sont pas assez informés pour le moment.
Oui, et puis j'irai tout à fait dans ton sens. Tu parles du grand rassemblement qui va avoir lieu à la fin du mois à Londres. Bien plus proche de nous, le 28 juin, il y a un... Alors j'ai oublié comment on appelle ça, là, quand on fait des shows dans les airs.
Une démonstration de vol.
Voilà, qui est organisée à Valence, à l'aérodrome de Chabeuil-Valence. Mm-hmm. Ça va être un défilé de toutes sortes de machines de mort. Et ça rentre aussi, pour moi, dans une opération de propagande pour faire avancer l'acceptabilité de l'armée, de la guerre. Et puis, on essaye évidemment d'embarquer le plus de jeunes possible. Donc ça il ne faut surtout pas y aller, hein, mais ça se passe... à Chabeuil, c'est le 28 juin, et c'est des opérations grand public qui sont relayées par les médias dominants, qui sont relayées par le conseil départemental de la Drôme, qui met un petit encart sur son site internet. Voilà, on en est là aujourd'hui. Step by step, comme diraient les anglophones, on prépare les opinions publiques à l'éventualité d'un conflit, d'une mobilisation de la jeunesse, ou peut-être un peu moins. Et ça participe, avec ce qui est fait dans les écoles, à faire monter ce sentiment.
Nicolas, par rapport à la Ligue des droits de l'homme, vous avez certainement une notion historique de la guerre au niveau international. Quel est le processus inhérent à cette montée de la militarisation auprès de la jeunesse ? Est-ce qu'il existe une étude ?
Pas à ma connaissance, je dois dire. Les moyens qui sont mis en œuvre, je dirais, sont assez classiques. Et les outils informatiques et technologies évoluent, mais voilà, on se rappelle tous au moment de la guerre de sécession, au moment des messages gouvernementaux qui disent « We need you, on a besoin de vous », avec quelqu'un qui vous montre du doigt sur une affiche placardée en ville. Et le phénomène et les moyens qui sont utilisés aujourd'hui sont les mêmes, avec des outils technologiques différents, mais la finalité est la même. Et tout ça, c'est très bien documenté à la Ligue des droits de l'homme, où on fait évidemment notre cheval de bataille, c'est les droits humains et le respect des droits humains, quelles que soient les majorités, les minorités que cela occasionne. Et évidemment, on a bien documenté tous ces phénomènes, évidemment.
Alors, à partir de quel moment, justement, le jeune est-il pris en témoin ou de cette volonté de militarisation ?
Ben, Moi, Émilie l'a dit un peu tout à l'heure, alors peut-être que c'est un raccourci, il faudrait regarder statistiquement, mais moi je me rappelle le conflit en Afghanistan, quand il y avait des troupes américaines qui étaient envoyées sur place, eh bien on se rendait compte à travers les images qui étaient transmises et à travers les différentes interviews des soldats qui étaient présents, c'est qu'on avait affaire à la classe populaire, je dirais le prolétariat américain qui, faute de pouvoir faire autre chose par manque de diplôme, décrochage par rapport à la mondialisation, enfin il y a plein de raisons, se retrouve avec une mitraillette dans la main pour aller désinguer des Arabes dont il comprend pas trop ce qui se passe, ni comment ni pourquoi, et ça a engendré énormément de dépression du côté des soldats américains. Et je pense qu'aujourd'hui, le phénomène est le même. Quelqu'un qui sort d'une formation qualifiante type Bac+5, je ne pense pas qu'il aille postuler entre 18 et 25 ans pour aller rentrer à l'armée. Ou alors, c'est sur des fonctions qui sont différentes. Je crois qu'on s'adresse principalement, comme tu l'as dit, Émilie, aux précaires et aux exclus du progrès et de l'intégration dans un monde compliqué.
Émilie, par rapport à la libre pensée, est-ce qu'il y a une ramification au plus proche de la population pour peut-être prendre la température de cette ambiance?
La libre pensée, c'est pas une étude de sondage, enfin c'est pas un institut de sondage.
C'est aussi une perception de ce qui entoure.
Ouais. Bah bien sûr, déjà parce que nous les militants, on a des enfants, des petits enfants, on a des jeunes parmi nous, on a évidemment un sentiment, mais comment dire, on n'a pas fait d'études avec une méthode scientifique qui montre l'étendue de la réussite de leur dispositif. Tout ce qu'on peut voir, c'est que l'histoire est quand même chargée de leçons. En 1882, dès 1882, il y a les bataillons scolaires qui font comme ça c'est des bataillons scolaires, c'est des espèces de classes défense en fait de l'époque qui ont permis de préparer la boucherie de 1914. En fait, comme dit Nicolas, les outils changent. Ce qu'on veut faire passer, c'est toujours la même chose. Par contre, on a fait croire à la guerre éclair pour la Première Guerre mondiale. Ça a été la boucherie abominable, là pour le coup, pas de drone, pas de distance, tout le monde embroché sur les baïonnettes dans les tranchées. La deuxième aurait pu être évitée, évidemment, de façon diplomatique. Il y a eu plein de choses qui ont été ratées, les historiens le disent, le savent, mais ça a mis un petit coup de boost à l'économie. Derrière, on a vu le temps qu'ont mis les sociétés à s'en remettre. D'ailleurs, je pense qu'on n'en est pas remis, vraiment. Avec les risques que ça a pu faire encourir à des populations, parce que, derrière, c'est tout lié. Les faits gravissimes qui sont produits pendant la guerre mondiale et qui ont permis aux nazis de continuer leur travail de destruction, ça aussi, c'est des choses. Tout aurait pu être évité, si vous voulez. On a choisi de pas éviter parce que une bonne guerre, ça relance l'économie. Mais derrière, on sait qui meurt. Quand tu demandes, de faire des précisions sur la précarité et pourquoi c'est les plus précaires. Mais parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de place à Parcoursup quand on est un enfant de prolo, on prend une place dans une super école privée qui coûte du pognon. Enfin, c'est facile. Les riches, ils en ont des solutions que les pauvres n'ont pas. On pense aux enfants de l'aide sociale à l'enfance qui composent 75% les gens qu'on retrouve dans la rue plus tard, à qui ça pourrait paraître une bonne opportunité aussi et qu'on sacrifie littéralement. Donc on sacrifie les jeunes racisés, on sacrifie les jeunes précaires, c'est comme d'habitude, comme au temps de 14 où on a sacrifié les gens des colonies. Il n'y a pas vraiment besoin de faire un sondage pour voir que l'histoire se répète avec des outils modernes, en fait.
Et y a une anxiété supplémentaire aujourd'hui quand on regarde à l'échelle de la planète le nombre de pays qui sont dirigés par des forces réactionnaires d'extrême droite. Parmi lesquels on trouve évidemment les États-Unis qui disent nous le droit international on s'assoit dessus et c'est la loi du plus fort qui prime. En gros, pour résumer en quelques mots. Et donc, à partir de là, on est reparti dans une époque des cow-boys et des indiens. Moi, j'ai une arme avec des comment une carabine avec des balles à l'intérieur. Toi, tu t'approches de moi avec un couteau à la main. Bon, bah, l'histoire est vite réglée, quoi. Et on est dans ce moment où ça bascule, je trouve, très très fort sur un démantèlement de toutes ces structures qu'on avait mis en place à l'après-guerre pour préserver la guerre et apporter une espèce de régulation entre les peuples. Tout ça, c'est en train d'être mis à mal et que voilà, on est revenu dans quelque chose de grégaire, hein, l'homme des cavernes avec sa masse sur l'épaule et qui va tuer son voisin pour lui piquer sa réserve de bois, quoi.
Oui, là où on peut rebondir sur ce que dit Nicolas, c'est que il y a deux choses parallèles, hein, qui se passent. Je parlais des leçons de l'histoire. On a vu que la marche à la guerre, et c'est la marche à la guerre sociale aussi. C'est que dans tous les pays où tout ça se met en place, on augmente les budgets de l'armée, comme on l'a vu ici récemment, et on bouge pas, on diminue, on appauvrit les services publics, tout ce qui sert réellement à la population. Voilà, là, on a en ce moment un exemple criant qui montre que le budget de la justice est insuffisant pour faire son travail complet. Je vais éviter la récupération fastoche, mais on le voit, l'école, la santé, la justice, ça ne va pas. Le pays est en crise à ce niveau-là, et on augmente les budgets de l'armée pour préparer une guerre que personne ne veut. Voilà, ça c'est la guerre au peuple qui commence déjà là en fait. Avant de nous tuer avec des armes, on nous tue en écrasant nos conquêtes sociales. Et pour rebondir sur ce que disait Nicolas, le droit international, bon. Alors moi, j'ai vraiment, évidemment, rien contre le droit international. Et par exemple, il y a le rapporteur de l'ONU, Francesca Albanese, qui fait évidemment des déclarations importantes et que je soutiendrai tant qu'elles iront dans le sens dans lequel elles vont pour l'instant, mais qui ont une effectivité qui est égale à zéro, en fait, parce que les pays dont on parle, les États-Unis, voire la France, Israël, se torchent avec le droit international. Ouais. C'est-à-dire que quand ça va dans leur sens, ben ça marche. Je reprends l'exemple de qu'il y avait le droit international qui existait déjà au moment de la guerre d'Algérie, de la guerre du Vietnam, au moment de l'invasion en Irak. En 91, les États-Unis, l'ONU leur dit « allez-y, ils y vont ». En 2003, l'ONU dit « non, ils y vont quand même ». Bon, là, l'ONU, elle dit quoi sur le génocide en Palestine? Pourtant, elle a les mots fermes, ils en ont rien à taper. Donc, voilà, les mots de Francesca Albanese, ils sont importants. L'émotion, les communiqués, tout ce qu'on fait, hein, dans nos assos, dans nos syndicats, dans les partis, ils sont importants, mais ils ont une effectivité qui est très, très limitée. Qu'est-ce qui marche? Ben, tout à l'heure, Nicolas, tu parlais. Voilà, des ouvriers qui disent non, on n'en voit plus. On n'en voit plus les armes. On ne fabrique plus les composants. On bloque les ports. Ça a une effectivité réelle. Parce que quand tu as un blocage comme dans le port de Gênes qui s'est passé en Italie il y a quelques mois, ben les choses s'arrêtent pour de vrai. Parce que les soldats, les Israéliens, ils vont pas les tuer à main nue toute la population. Enfin, ça ne marche pas. Ça marche pas comme ça, on le sait. Enfin, voilà, il leur faut des armes, il leur faut des bombes, il leur faut du matériel technologique. Donc voilà où se situe le nœud du problème, en fait. C'est qu'il faut que, après cette mission d'information, et la libre-pensée, pour le coup, n'est ni un parti ni un syndicat, donc elle n'aura qu'une mission d'information, une mission un peu d'intello, même si on est dans le combat réel, intellectuel, mais enfin, voilà, on n'ira pas, nous, bloquer une usine. Mais voilà où la suite du combat se situe, c'est l'organisation. Les citoyens doivent s'organiser, se réunir, discuter de ce qu'on fait pour vraiment, vraiment arrêter les gouvernements, en fait. Au niveau départemental, au niveau régional, national et international. Les gens doivent se réunir pour s'organiser, pour bloquer les choses et que la guerre... Les guerres s'arrêtent.
Justement, la jeunesse, quels moyens dispose-t-elle pour pouvoir se concerter déjà, s'informer également et peut-être de trouver des solutions pour éviter cet engrenage?
Moi, je crois déjà, et je l'espère très fort, que notre jeunesse aujourd'hui est informé. On sait ce que c'est qu'une guerre, on sait ce que c'est que les dégâts collatéraux, il n'y a qu'à allumer l'ordinateur, il y a des vidéos, il y a des images. Et je pense que les ressorts qui ont pu fonctionner il y a une centaine d'années pour mobiliser et envoyer les gens combattre l'ennemi extérieur, je pense et j'espère très fort que ces ressorts aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus, ou ils fonctionnent mal, ou ils fonctionnent moins bien.
Je crois que tu as raison, la preuve, il les multiplie.
Voilà, en dehors peut-être de quelques pays dans le monde qui nous ont fait la démonstration récente, par exemple en 1986, quand il y a eu la centrale de Tchernobyl, dont le toit s'est effondré, troisième réacteur a explosé, où ils ont assez facilement finalement trouvé des volontaires pour aller éteindre l'incendie, déplacer les gravats, etc. Et que ces gens-là, ils sont morts par milliers dans les heures et les jours qu'on suivit. Et ils l'ont fait par patriotisme pour... ou peut-être avec une épée dans le dos, j'en sais rien. Mais bon, ils l'ont fait quand même. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde occidental où on aurait cette ferveur patriotique qui permettrait de mobiliser des gens, et notamment la jeunesse.
La semaine dernière, le 6 juin, donc, avait lieu une conférence « Marche à la guerre ». Alors, qu'est-ce que cela a donné et quel est le public présent ?
Ah bah, écoute, ce que je peux te dire, c'est que je peux te parler de cette réunion-là, je peux te parler de celle qui a eu lieu à Saint-Étienne, et puis je peux te parler des dizaines de réunions qui ont lieu à l'initiative de la Libre-Pensée, mais avec d'autres camarades. En fait, le mouvement ouvrier en France et en Europe, et dans le monde d'ailleurs, se mobilise en fait, pour parler de ce sujet... pour parler de ce sujet sous tous les angles et notamment sur celui de comment résister. Donc le 6, la semaine dernière, à Valence avait lieu une réunion. Écoute, il y avait une trentaine de personnes, des gens, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, qui sont venus voilà, déjà écouter... un petit peu se renseigner et puis ensuite apporter d'autres renseignements, parce que c'est ça qui est intéressant quand on se rassemble et quand on discute, c'est qu'on apprend les uns des autres. Ce jour-là, il y avait une dame, par exemple, qui fait de l'accompagnement à l'emploi et qui nous disait que jusque-là, ses responsables, enfin voilà, les directives, c'était de continuer l'accompagnement à la formation, au retour à l'emploi, et que là, on lui demande de faire de plus en plus la promotion du SMV, du service militaire volontaire. Voilà, donc ça, les jeunes sans solution, c'est ça qu'on doit leur présenter en premier. Donc tu vois, ça par exemple, je l'ignorais, j'apprends ça. Il y avait une jeune de 18 ans qui nous dit « Ah bah c'est rigolo, parce que moi cette année, ma spécialité au lycée, c'est AGGSP, histoire, géopolitique, sciences du politique, enfin voilà. » Et c'était un des thèmes principaux étudiés cette année, faire la guerre, faire la paix. Et elle nous disait que l'angle du truc, c'était à tout prix, enfin, c'était les conflits, jamais l'avant-conflit, jamais comment on aurait pu éviter les conflits, c'était les conflits et la façon dont ils ont été réglés, avec voilà, la liste d'accords derrière la guerre, et c'est comme ça qu'on fait la paix. Que la paix, finalement, découle que de la guerre. Enfin, voilà, on a des... on a comme ça de l'eau à notre moulin, en fait. Hein. On a personne qui arrive à cette conférence et qui nous dit non, bof, je suis pas trop d'accord avec vous. Les gens arrivent, nous disent oui, telle visite, tel truc, telle caserne. Moi, j'ai vu une pub, par exemple, on nous a dit à Saint-Étienne l'autre jour, une pub pour des timbres. Il y a les 400 ans de la marine qui ont été faits, ou je sais pas quoi, là, de la marine nationale. Il y a eu un truc en grande pompe à Valence, d'ailleurs, dans les rues de Valence, ou pas, c'était la fête. Et ils ont édité un timbre à cette effigie pour l'occasion. Un petit béret rouge avec le petit pompon, vous voyez, c'est classique. On se dit, bon, bah, ça mange pas de pain, hein, c'est un timbre à l'effigie de la marine. Hop, en dessous, qu'est-ce qui était précisé ? Cette marine qui nous défend au jour le jour, encore aujourd'hui, contre la guerre, etc., etc. Même dans une pub pour les timbres, ils arrivent à nous dire, attention les gars, ça vous pend au nez. Donc voilà, on a besoin de se rassembler aussi pour faire passer les informations. Et puis, parce que souvent, les gens, ils arrivent, ils nous disent, ben ouais, on est bien d'accord avec vous, ça va pas, ça nous va pas, on veut pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que je reviens sur l'organisation, c'est là que je reviens sur le fait qu'on doit discuter, qu'on doit s'organiser, qu'on peut le faire, parce que certains nous baratinent à nous dire la lutte des classes, c'est terminé, c'est plus le 19e siècle. Alors, Je félicite les gens qui ont bien observé qu'on n'est plus au 19e siècle. Bravo. Par contre, en termes de nombre, la classe qu'on peut qualifier de prolétaire, elle est plus nombreuse encore aujourd'hui. Donc, des moyens de bloquer, en fait, on en a plein. C'est pas les actionnaires, hein, c'est pas qui vont aller mettre les armes dans les containers. Hein. Enfin, ça, on est tranquille. C'est pas eux qui vont aller au charbon. Donc, si les prolétaires s'arrêtent, les choses s'arrêtent. Voilà.
Je reviens un peu sur de volonté de rassemblement dont tu parles. À quel niveau se situerait ce rassemblement, au local, au national? Est-ce que il est peut-être plus efficace d'agir autour de soi, plus localement, pour faire une prise de conscience, opérer une prise de conscience sur une population et peut-être de partager un peu ensuite plus largement?
Ouais, c'est évidemment une question qui revient souvent. Moi, je me suis pendant longtemps intéressé aux travaux de l'association altermondialiste ATTAC, qui disait qu'il y avait un slogan qui disait « il faut penser global et agir local ». Et on pourrait le prendre dans l'autre sens. Voilà, pour moi, le militantisme, il n'y a pas de graduation. Chacun fait un peu comme il peut, là où il est. Je pense qu'il faut à la fois agir localement, parce qu'on a des choses à mettre en pratique. Il faut qu'on se rencontre, qu'on se rassemble, qu'on se mette d'accord, qu'on prenne des décisions, qu'on avance localement. Et il faut aussi agir globalement au niveau national. Bon, alors c'est bien sûr un peu plus compliqué. Là, on va rentrer dans une période électoraliste assez intense avec l'élection présidentielle l'année prochaine. Et il faut évidemment privilégier. Quand je vois aujourd'hui l'augmentation des budgets qui sont prévus pour financer l'armée et le matériel de la France, et que dans le même temps on a les associations qui œuvrent comme elles peuvent avec des moyens dérisoires pour lutter contre les féminicides, pour lutter contre les pédocriminels, et que dans le même temps on consacre des dizaines de milliards d'euros pour armer la France. Voilà. Et donc, comme disait Émilie, il faut qu'on fasse le choix entre le bien-être social et un surarmement dont on connaît les limites et les finalités.
En fait, c'est, tu l'as dit sans le dire, mais la façon dont on peut faire passer aussi toute cette propagande guerrière, c'est en faisant croire aux gens qu'ils ont un ennemi. L'ennemi aujourd'hui, grosso modo, qu'on nous fait craindre, c'est facile, hein, soit il est russe, soit il est arabe, grosso modo, ou musulman pour l'ennemi de l'intérieur, puisqu'on n'arrête pas avec les lois sécuritaires, xénophobes. Voilà, et en fait, cultiver la peur, ça a cet effet-là, de faire craindre pour la vie de ses enfants, de faire craindre pour la vie, ouais, je le disais tout à l'heure, son petit confort, sa civilisation, sa liberté, vous voyez, il pourrait arriver et vous dicter votre façon de vivre et tout ça, et ça va avec cette ambiance un petit peu où on essaye de se méfier de son voisin, enfin voilà.
Allez, on va prendre notre président de la République, actuel, je ne vais pas le citer, mais tout le monde le reconnaît, c'est de faire en sorte que les jeunes soient en contradiction avec les plus anciens, que les salariés râlent contre les retraités parce que les pensions des retraités qui sont trop élevées.
Ou contre les gens au RSA.
Les travailleurs vont dire, moi je travaille, je suis au SMIC, je m'en sors pas, et mon voisin il est au RSA et lui tout va bien, il traîne sur les terrasses de café toute la journée, bon, sans voir plus loin que ça, etc. etc. Et je ne parle même pas des minorités de genre ou des minorités de couleur de peau. Donc ce système ne tient que parce qu'on est divisé. C'est une évidence. Et le jour où on sera tous ensemble sur le même clou à appuyer pour l'enfoncer avec des marteaux différents, mais on sera tous concentrés sur le même clou à faire rentrer, eh bien, ça sera réglé en une demi-journée, évidemment.
Voilà, il n'est pas question d'une uniformité de la pensée, puisque le combat antimilitariste, c'est le combat contre l'uniformité de la pensée. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir des mots d'ordre à un moment donné et de se rassembler sur ces mots d'ordre. Comme ça arrive parfois, je ne sais pas moi, on est contre la réforme des retraites et là, paf, tout d'un coup, là-dessus, on est d'accord. Allez, on y va tous ensemble. Eh bien, je crois que sur le combat antimilitariste, il peut rassembler très, très largement. Enfin, pour le coup, dans des milieux très, très peu politisés, où les gens vont avoir assez peu d'opinions, quand on dit « Ah, va falloir se préparer à perdre vos enfants », Là, les gens disent non. En fait, ça suffit, c'est le truc de trop. C'est-à-dire que je ne sais pas de la faute de qui c'est, depuis quand c'est, combien il y a de conflits global armés ensemble en ce moment, et le complexe militaro-industriel de la Drôme-Ardèche. Il y a plein de gens qui n'en savent rien, qui n'en ont d'ailleurs rien à cirer, et qu'on n'arrivera pas à faire venir exactement dans nos combats. Mais quand il s'agit de faire mourir leurs enfants, ça réveille quelque chose quand même. Et c'est ça qu'il faut rappeler aux gens, en fait. La guerre, c'est ça. C'est pas virtuel. C'est ça la réalité, et c'est à ça qu'ils veulent arriver. Et c'est là qu'il faut dire stop. D'arriver à être émancipé, enfin ça, voilà, ça, on peut dire ce qu'on souhaite à la jeunesse.
Quand on parlait des... Tu as dit, Émilie, le risque russe, le risque Moyen-Orient avec les Arabes. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, si on s'intéresse uniquement aux faits, le risque, il est plus nord-américain que russe. Trump, qui fait une opération commando pour enlever le président du Venezuela, qui change le nom de telle mer, là, tel canal. On a vraiment l'impression qu'il va aller au bout. Enfin, on va voir comment se passent là les élections à mi-mandat, mais... Moi, je sens un risque impérialiste beaucoup plus fort aujourd'hui que le risque de la Russie qui serait, paraît-il, le couteau entre les dents pour reprendre tous ces satellites.
Tu fais bien de le dire, parce que la plupart des conflits armés aujourd'hui sont dus à des attaques impérialistes, en fait, qui est liée au maintien du capitalisme, évidemment. Ouais. Enfin, donc, c'est pas un mythe.
Par rapport à ce mouvement de va-t-en-guerre, qu'est-ce qui est proposé au niveau de la population ou par elle-même pour contrer un peu cette marche, cette fuite en avant, je dirais?
Il y a nous.
Il y a vous, d'accord. Mais
oui, et puis je pense que cette jeunesse aujourd'hui, elle est sujette à des messages contradictoires qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. Et elle a l'intelligence, à mon avis, dans beaucoup de cas, de faire le tri entre ce qui est du n'importe quoi et ce qui ressemble à quelque chose. Et sur la guerre, voilà, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, je peux me tromper, mais il faut faire confiance à l'intelligence de notre jeunesse, qui est une jeunesse formée, éduquée. Aujourd'hui, on a 80% d'une tranche d'âge qui passe le bac. Il y a énormément de personnes qui ont accès aux études supérieures. Alors, ça ne débouche pas forcément sur des métiers fantastiques, hein, parce que des fois, bac plus 5, on se fait engager pour être guichetier quelque part. Mais le disque dur est bien rempli, il est formaté, il y a des choses qui fonctionnent bien. Et moi, je pense qu'on a une jeunesse qui est formée, intelligente et qui saura prendre les décisions qui s'imposent le cas échéant. Et ça peut démarrer demain matin. Ouais. Ça peut démarrer demain matin.
Et qui est engagée, hein. Je suis d'accord avec Nicolas. Elle est engagée, cette jeunesse, contrairement à tout ce que pourraient dire certains vieux réacs. Pour continuer dans la veine optimiste, parce que si on doit finir cette interview, moi j'aimerais la finir de façon optimiste, on peut noter que 75% des Américains sont contre l'envoi des troupes en Iran. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a le va-t-en-guerre Trump, mais il y a les gens. Et les gens, ils ont dit, ils étaient combien, 7-8 millions avec des pancartes No King en opposition à Trump l'année dernière, et ça continue régulièrement. Il y a des manifestations qui ont lieu chaque jour dans le monde entier, dans des capitales mondiales partout, pour condamner les politiques expansionnistes et guerrières de toutes les nations impérialistes. Il y a pas longtemps, dans le Finistère, il y a des étudiants, des syndicalistes qui ont bloqué un amphithéâtre pour empêcher la tenue d'une réunion tenue par une députée PS. La réunion était sobrement intitulée « Les Finistériens face à la guerre, rapprocher les citoyens des enjeux de défense à l'heure de nouvelles conflictualités ». Bon, il y a Unison, le plus grand syndicat de Grande-Bretagne, c'est 1,4 million d'adhérents qui appellent au meeting international contre la guerre le 20 juin prochain. Il y a le congrès de la Confédération syndicale allemande qui prend position contre la guerre. Le 16 mai dernier à Londres, mais tant de fois depuis et tant de fois ailleurs, 250 000 manifestants contre le génocide des Palestiniens. Et des exemples comme cela, il y en a tous les jours. Tous les jours.
Je travaille dessus sur dit là depuis quelque temps. Il faudrait qu'on ait un lieu pour se retrouver. un lieu qui soit pas estampillé, étiqueté un tel ou un tel, mais un lieu commun, une maison du peuple, une maison associative, avec un endroit pour prendre un café le matin avant de partir au travail, avec un endroit pour venir discuter une demi-heure avant de rentrer chez soi le soir. Voilà, il faut un lieu, il faut des espaces de parole, il faut des espaces de rencontre. Et puis, on se rencontre, on travaille ensemble, on discute. Et puis, le cas échéant, comme on se connaît, on se fait confiance et on avance.
Ouais, et ça atténue plein de clivages.
Ouais, les clivages, il y en a. Et il faut les combattre.
Voilà, une petite note d'optimisme. Je vous remercie en tout cas, Émilie Moncillon et
Merci.
Nicolas Fèvre-Douarcier, d'être venus nous parler donc, de la militarisation de la jeunesse. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci Erdiwa d'être cet espace de parole libre.
Merci, à bientôt.
Tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'âme. brise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.